Envie de savoir si on a des ancêtres vikings ou peut-être des cousins cachés quelque part. Pour quelques dizaines d'euros, c'est tentant, non?
Oui, les tests ADN grand public promettent ça, et même des infos sur la santé. Des millions de personnes ont déjà sauté le pas, envoyé leur salive.
Mais est-ce que ces promesses tiennent vraiment la route? C'est ce qu'on explore aujourd'hui en se basant sur des docs d'Arte, des analyses du Collège de France, pour essayer de démêler un peu le vrai du faux.
Tout à fait. L'idée est séduisante, c'est sûr. Mais la science derrière, c'est quand même plus complexe qu'un simple pourcentage sur une carte du monde.
Prenons les origines. C'est souvent ça qui attire en premier.
Oui, et on voit des histoires amusantes, comme ses sœurs, Héloïse, je crois, qui reçoivent des résultats différents l'une de l'autre. Ça montre bien qu'il y a des limites.
Comment ça, des limites? On nous vend quand même une analyse de notre ADN, notre code ATGC unique, non?
Bien sûr, c'est bien de l'ADN qu'on analyse. Mais l'interprétation, c'est là que ça se complique. Ces pourcentages d'origine, ce sont des probabilités, en fait.
Des probabilités?
Oui. Calculées en comparant votre ADN à celui d'autres personnes actuelles qui sont dans les bases de données de l'entreprise. Ce ne sont pas vos ancêtres d'il y a 500 ans.
Ah, d'accord. Donc on compare à des populations d'aujourd'hui.
Exactement. Et puis, mélanger des pays, des régions. Un généticien disait que c'est un peu mélanger des choux et des bicyclettes. Ce n'est pas très rigoureux scientifiquement parlant.
Et j'imagine que les algorithmes, les méthodes de calcul, les entreprises les gardent bien secrets.
Ah oui, secret des affaires oblige. C'est pas comme la recherche scientifique classique où on publie tout. Les méthodes, les équations...
Moins transparent donc.
Clairement. Par contre, il y a un aspect qui, lui, peut fonctionner de manière assez troublante. C'est pour retrouver des proches.
Ah oui.
L'histoire de Christy qui retrouve sa demi-sœur Lisa, c'est émouvant. Mais attention, ça peut aussi faire exploser des secrets de famille.
Genre une insémination artificielle cachée, ce genre de choses.
Voilà. L'impact émotionnel peut être très lourd. Des dommages collatéraux, comme on dit. C'est une des raisons pour lesquelles ces tests sont interdits en France. Même si, bon, l'interdiction est facile à contourner sur Internet.
Ok. Donc, pour les origines, c'est, disons, plus flou qu'on pourrait le penser. Mais alors, quid de la santé ? Là, les enjeux semblent encore plus sérieux.
Oui, et c'est devenu un marché énorme pour ces entreprises. Sauf que la fiabilité, là, elle pose vraiment question.
Comment ça?
Prenez l'exemple de Mathieu Courtois, raconté dans le docu d'Arte. Un test lui annonce à tort des mutations liées à des maladies gravissimes comme le syndrome de l'iphroménie.
Une prédisposition à plein de cancers, c'est ça
Exactement. Imaginez le stress.
Oui.
Et puis, derrière, il faut faire de vrais tests de médicaux payé par la collectivité pour infirmer ses résultats.
Mais comment c'est possible une erreur pareille? Pourquoi ces tests sont si peu fiables sur la santé, comparé aux tests médicaux?
Alors, une étude parlait de 40% d'erreurs sur les résultats santé de ces kits grand public.
40%? C'est énorme.
Oui. La raison principale, c'est qu'ils n'analysent souvent que quelques points très précis de l'ADN. C'est un peu comme chercher une faute au cinquième mot de la septième ligne d'un livre au lieu de lire tout le chapitre.
D'accord, une analyse très partielle.
Voilà, un test médical sérieux va séquencer beaucoup plus largement, voir tout le gène concerné. Et surtout, il faut comprendre que la plupart des maladies courantes, les cancers, les maladies cardiaques, elles sont polygéniques.
C'est-à-dire?
Ça veut dire qu'elles dépendent de l'interaction complexe de nombreux gènes et de notre environnement, notre mode de vie. Un simple test ADN comme ça ne peut absolument pas prédire ce risque complexe.
Donc, l'ADN n'est pas une boule de cristal pour notre santé future?
Pas du tout, en tout cas pas via ces tests-là. Pour les maladies monogéniques, où un seul gène est responsable, comme la mucoviscidose, c'est différent. Mais ces tests ne sont pas faits pour ce diagnostic médical précis.
Bon, si les résultats sur les origines sont approximatifs, et ceux sur la santé carrément lesqués, pourquoi ces entreprises continuent? C'est quoi le vrai but alors?
Mais on touche au cœur du modèle économique, les données. Le vrai business, souvent, ce n'est pas tant de vendre le kit lui-même, qu'ils vendent parfois à perte.
Ah bon? À perte?
Oui. Le but, c'est de construire d'immenses bases de données génétiques. Et pas seulement génétiques, d'ailleurs. Ils collectent aussi plein d'infos via les questionnaires que les gens remplissent.
Un peu comme les géants du web, genre Google ou Facebook. Si c'est pas cher ou gratuit, c'est que le produit, c'est nous.
C'est un peu ça, oui. Sauf qu'ici, le produit, ce sont nos données génétiques et personnelles.
Et ces données, elles valent de l'or.
Pour qui?
L'industrie pharmaceutique, j'imagine.
Exactement. On a vu par exemple 23andMe signer un gros contrat avec le labo GSK. Mais attention, c'est pas si simple de transformer ces données en médicaments miracles. C'est très complexe.
Ah oui, Pourquoi?
Parce que trouver une cible génétique, c'est une chose. Mais développer un médicament qui agit dessus, c'est une autre paire de manches. On parle parfois de protéines non drogables. D'ailleurs, 23andMe a réduit sa propre recherche et met maintenant ses données à dispo des universitaires.
Ça fait bien pour l'image, mais ça ouvre la porte à quoi des études un peu bizarres.
Ça peut, oui. On a vu passer des études sur les gènes du niveau scolaire, des choses assez controversées, disons.
Et au-delà de la vente de données, il y a des risques directs pour les utilisateurs, non ? Je pense au piratage, par exemple.
Absolument. Le piratage massif de 23andMe l'a bien montré. Des données très sensibles se sont retrouvées sur le Darknet. Et puis, il y a le manque de contrôle. Supprimer ces données, c'est parfois un vrai casse-tête. Ancestry a même été épinglé pour ça. Un Big Brother Award, c'est ça ? Pour manque de transparence.
Exactement. Et puis, il y a le risque de discrimination.
Comment ça ?
Par les assureurs, par exemple.
C'est déjà le cas en Nouvelle-Zélande ? Des assureurs demandent les résultats des tests génétiques avant d'assurer quelqu'un. Ça peut dissuader de faire des tests, même ceux qui seraient médicalement utiles.
Ah oui, c'est grave, ça.
Une tentative similaire a échoué de justesse en Suisse. Et puis, le rachat d'Ancestry par un gros fonds d'investissement comme Blackstone, ça pose aussi question sur l'avenir et l'utilisation de ces données massives. Donc, si on résume, on a d'un côté un marketing super efficace qui joue sur notre curiosité naturelle, nos questions sur nos origines, notre santé. Oui, un attrait indéniable.
Et de l'autre, une science dont les résultats pour le grand public via ces kits sont au mieux indicatifs pour les origines et potentiellement trompeurs, voire dangereux pour la santé.
C'est ça. Et surtout, le véritable enjeu caché.
La collecte massive de nos données génétiques privées avec tous les risques que ça comporte. Ça contraste énormément avec l'usage médical très encadré de la génétique.
Précisément. Et ça amène une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice.
Allons-y. Notre ADN, il ne parle pas que de nous. Il contient aussi des informations sur nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs.
Oui, sur toute notre parenté biologique, en fait.
Alors, à mesure que ces bases de données deviennent gigantesques, qu'elles se connectent entre elles et que l'intelligence artificielle permet des analyses de plus en plus fines, qu'est-ce qui pourrait émerger ?
C'est la grande question. Quelle nouvelle forme de catégorisation, de sélection, voire d'inégalité basée sur ce facteur biométrique ultime ?
Comment s'assurer que ça ne devienne pas un outil de discrimination à grande échelle et que les questions éthiques ne soient pas juste balayées par les intérêts commerciaux ?
La question reste ouverte et elle est cruciale pour l'avenir. On ne peut pas laisser le marché décider seul de ces enjeux-là.